Donc bonsoir à tous, merci d'être venus. Je vais parler de ce qu'il y a écrit là. C'est un peu long à lire, excusez-moi. Alors pour commencer, je voulais faire un point sur la présence du poisson dans la mythologie, dans les mythologies, en particulier les mythologies européennes et du bassin méditerranéen. Et après un examen attentif des mythologies égyptiennes, assyro-babyloniennes, phéniciennes, grecques, romaines, celtiques, germaniques, slaves et lituaniennes et ougro-finnoises, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de légende de poisson. Donc les mythologies que je viens de dénoncer couvrent à peu près l'ensemble de l'Europe et du bassin méditerranéen. On trouve des dauphins dans la mythologie grecque, par exemple, qui accompagnent le cortège de Poséidon ou dans certains épisodes des légendes de Dionysos. On trouve des crocodiles et des hippopotames dans la mythologie égyptienne, par exemple le dieu Soukhos à tête de crocodile ou la déesse Touéris à tête d'hippopotame, elle a pas de chance. Mais pas de poisson, à part une allusion dans la légende d'Osiris. Lorsque Seth le découpe en 14 morceaux qu'il jette dans le Nil, on dit qu'un petit poisson, l'Oxyrhynchos, aurait avalé son phallus. Le problème, c'est que l'Oxyrhynchos est un poisson qui n'existe pas. Ça veut dire à bec pointu, donc ça pourrait aussi bien être un crocodile. Donc je propose de rejeter l'hypothèse qu'il s'agisse d'un poisson. Donc le problème auquel nous devons faire face, c'est que le poisson existait, était connu des hommes à une époque très ancienne. Donc on a ici une représentation de saumon dans l'abri du poisson aux Aisies. Alors ça, c'est une gravure dans une grotte qui date de la culture gravettienne, donc du proto-magdalénien, autant dire que ça a 25 000 ans. Donc c'est la plus ancienne représentation de poisson connue au monde. Et par ailleurs, à l'époque archaïque, à l'époque historique, les poissons étaient connus et faisaient partie de l'alimentation de base. Une mosaïque à Pompéi dans la maison du faune. Donc on a cette apparition des poissons il y a 25 000 ans, cette réapparition des poissons il y a 3000 ans, et entre les deux, rien du tout. Donc on peut se demander où sont passés les poissons pendant ce temps. Est-ce qu'ils se sont cachés? Est-ce qu'ils ont disparu puis réapparu? C'est un mystère de l'évolution, donc c'est ce que nous allons étudier. Donc je vais m'intéresser à un événement très important qui est le déluge. Alors, le déluge est mentionné dans les mythes chrétiens et grecs, ce qu'on peut expliquer par un fond commun babylonien qui est transmis aux chrétiens par proximité géographique des aires culturelles et aux grecs par contact avec les marchands phéniciens. Et pourtant, il y a aussi une mention du déluge dans les mythes lituaniens, et ici on ne peut guère évoquer l'hypothèse d'une transmission par proximité géographique. Donc en conclusion, devant la diversité des sources, on ne peut que dire que cet événement a bien eu lieu. Je ne sais pas si tout le monde a bien en tête le mythe lituanien du déluge. Je vais peut-être résumer. C'est l'histoire de Pramzis, qui est la plus ancienne divinité et qui est le dieu du destin, qui voit depuis le ciel la terre pleine de guerres, de crimes, de choses atroces. Donc il envoie l'eau et le vent, ce qui déclenche le déluge pendant 12 jours et 12 nuits. Au bout de ce laps de temps, Pramzis regarde de nouveau la terre, tout en mangeant des noix qui poussent dans le jardin de son château céleste. Et en voyant que presque tout le monde est mort, il jette une coquille de noix qui se met à flotter près d'une montagne où s'étaient réfugiés les derniers oiseaux, animaux et quelques couples d'hommes. Et ceux-ci se montent dans la coquille de noix et flottent jusqu'à ce que Pramzis regarde une troisième fois et pitié d'eux et fasse partir l'eau et le vent. Parallèlement, je vais citer les versets 19 et 20 du livre 6 de la Genèse. Donc, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. C'est ce que dit Dieu à Noé. On se rend compte d'une chose dans les deux relations de ce mythe. Dieu a oublié les poissons. Or, on sait que tous les êtres vivants qui ne sont pas montés dans l'arche se sont noyés. Donc les poissons se sont noyés au moment du déluge. Comment se fait-il donc que nous connaissions des poissons aujourd'hui? À quel moment ont-ils réapparu? Je passe maintenant à une autre légende bien connue des scientifiques, qui est le mythe de l'Atlantide. Donc, en -357, Platon rapporte dans le Timée le mythe de l'Atlantide. Donc, si certains historiens s'autorisent aujourd'hui du caractère hautement symbolique du récit de Platon, qui introduit une visée morale pour choisir la solution de facilité et décréter que l'Atlantide n'est qu'une fable et n'a jamais existé, est aujourd'hui largement répandue dans la communauté scientifique, l'opinion selon laquelle les Atlantes ont bien existé, ont vu leur civilisation s'effondrer et ont émigré au Tibet où ils ont fondé Lhasa, puis de là pour certains d'entre eux en Antarctique où ils ont établi des bases scientifiques grâce auxquelles ils ont pu entrer en communication avec les extraterrestres et enlever Elvis. Nous allons démontrer qu'il n'en est rien. Alors, certains archéologues spécialisés dans les civilisations celtiques se sont penchés sur le problème des mégalithes trouvés sur toute la côte atlantique, de la Bretagne, entendue au sens large, jusqu'au sud de l'Espagne. Donc nous savons aujourd'hui que l'image d'Obélix est erronée, que les menhirs et autres dolmens ne sont pas l'œuvre des Celtes, mais d'une civilisation bien plus ancienne. Donc on a pu établir certains rapprochements. Déjà, la proximité sémantique entre le nom de l'Atlantide et celui de l'océan Atlantique laisse supposer une certaine proximité géographique. D'ailleurs, Platon situe l'île au-delà des colonnes d'Héraclès, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar. Par ailleurs, il est question d'inondations extraordinaires, d'Atlantide engloutie dans la mer. Or, il est avéré qu'entre il y a 20 000 ans et il y a 6 000 à 3 000 ans, le niveau moyen de la mer a remonté de 120 cm, ce qui suffit surtout sur les côtes atlantiques qui sont en pente douce, à engloutir plusieurs kilomètres de territoire. Résumons. À l'origine des temps, les poissons existaient, survient le déluge, plus de poissons. Puis les Atlantes sont engloutis dans la mer, j'insiste sur ce point, et en peu de temps affluent des documents iconographiques ou écrits qui recommencent à parler de poissons. Donc, l'un des plus anciens documents de la période historique est un bas-relief du tombeau du grand roi Ti en Égypte à Saqqara, où on voit les serviteurs attraper pas mal de poissons, ça date d'environ 5000 ans, désolé j'ai pas d'image. Je vous mets ici une image de la tombe de Kadekmet à Deir el-Medina. Donc, Kadekmet, c'est un artisan qui a vécu sous le règne de Ramsès II, soit au milieu des années moins 1200. Donc on voit ici Anubis en train de faire la cuisine, visiblement. Donc il semblerait que la disparition des Atlantes soit concomitante à la réapparition des poissons. Donc contrairement à ce que dit Platon, l'engloutissement ne s'est pas fait en un jour, ça a duré plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Peut-on supposer que les Atlantes aient été trop bêtes pour partir, ou que pour quelques bonnes raisons, ils se soient habitués à rester là et à aller de plus en plus souvent dans l'eau, et que ce soit produite une évolution « inversée » entre guillemets? On a certains documents iconographiques qui tendraient à le prouver. Donc on voit ici des Atlantes batifolant dans l'eau avec les poissons. Ils ont l'air de s'habituer au milieu, ils gardent encore la tête hors de l'eau. Ici, on a une Atlante en train de nager avec les poissons, donc ici, elle est représentée dans l'eau, enfin, le mode de représentation est ce qu'il est, mais on voit les vagues qui vont jusque par-dessus sa tête, donc on peut supposer qu'elle est totalement dans l'eau. Et à partir de là, on a des évolutions biologiques, donc avec ce bonhomme dont les deux jambes commencent à se pourvoir de nageoires, qui a donné naissance au mythe des tritons, des sirènes et de tout ce qui s'ensuit. Alors ça, c'est dans les termes d'Herculanum. Ça, c'est un bas-relief du temple d'Apollon à Zizim, donc ça date de entre le 7e et le 6e siècle avant notre ère, en Turquie. Et voici le nymphée de la villa de Julia à Rome. Donc là, on a un homme qui est presque totalement en poisson, puisque non seulement il a développé la queue de poisson, mais il a même les nageoires par devant. Donc la théorie synthétique de l'évolution pose comme principe que certains groupements de population évoluent en fonction de caractères ayant acquis une valeur adaptative. Ça, c'est copier-coller d'Wikipédia. J'ai pas tout compris. Il se peut tout à fait que certains individus, au lieu d'évoluer, choisissent de migrer, ceux qui sont partis en Antarctique, tandis que ceux qui transmettaient les gènes évolutifs à leurs descendants restaient sur place. Et il est tout de même significatif que les légendes d'êtres hybrides aient à ce moment-là cours dans le monde gréco-romain, Néréide et Triton, et dans le monde celte avec les sirènes, soit deux populations en contact avec le milieu atlantique, même si d'un peu loin, ou encore sous d'autres formes, par exemple en Afrique, au Togo, au Nigeria, au Cameroun, sous la forme de Maniwata, qui est une divinité des eaux, qui est une forme de sirène également. Et donc, pour finir, on suppose que les derniers descendants de cette évolution parallèle sont les membres de la famille Pompée, qui s'éteint au 1er siècle avant notre ère avec la défaite de Pompée face à César à Pharsale, ça c'était pour coller au titre, et la preuve en est l'émission par cette famille de monnaies représentant les monstres marins, Donc la coutume en fait dans la République, c'est que les familles romaines dont un membre obtenait la charge de magistrat monétaire faisaient frapper des monnaies avec un symbole fort de leur nom, en quelque sorte les armes de la famille. Par exemple, les monili qui prétendaient descendre d'Ulysse mettaient une image d'Ulysse sur les monnaies qu'ils ont fait frapper. Et donc Sextus Pompée, lorsqu'il est nommé commandant de la flotte en -42 et gouverneur de Sicile par le Sénat romain qui s'oppose à cette époque à Octavius, fait donc frapper un denier à l'image de Sylla. Sylla comme dans Charybde et Sylla. Donc on voit ici sur l'image de droite. Ici donc on pourrait aussi mettre l'hypothèse, étant donné que Sextus Pompée, après le désaveu par le Sénat qui se range aux côtés d'Octave, se fait pirate, que cette monnaie pourrait représenter le fameux monstre en spaghetti volant, ou en couscous volant, ou en quoi que ce soit d'autre. Et c'est là la dernière preuve d'une affiliation ou disons d'un lien familial entre les humains et les poissons. Je vous remercie. Avez-vous des questions? Oui.
Il me semble qu'il est avéré que les Atlantes étaient technologiquement extrêmement avancées. Est-ce qu'il a été envisagé que leur transformation progressive en poisson n'ait pas été le fruit de l'évolution, mais été provoquée délibérément?
Une évolution poussée. Alors, je n'ai pas envisagé cette hypothèse parce que, en fait, Platon ne parle pas du tout de technologie ou de quoi que ce soit. Il parle
C'est terrible!
C'est tout à fait possible, en fait, on n'en sait rien. Je ne sais pas exactement d'où sort cette légende. Dans le texte, Platon dit seulement qu'ils étaient très forts militairement, mais. Donc voilà. Ah. S'il mangeait des gens intelligents en poisson. Peut-être.
Il y a plus un lien avec le crochet de poisson.
Le?
Les crochets de poisson.
Les crochets de poisson?
Oui, c'est vrai. Je vais te dire que c'est un peu
plus. C'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée.
Justement, sur les Atlantes, est-ce que c'est une idée de Weber qui pourrait être un micro-empoisonnement rare de poisson OGM?
Oui, je sais pas, c'est tout à fait possible, mais comme on n'a pas de reste d'Atlante, c'est assez difficile à analyser. Oui. Il dit pas qu'il l'a eu auprès de l'oracle de Delphes, c'est Socrate qui dit qu'il l'a eu d'un vieux pote à lui, qu'il savait, de Solon qui le savait, de...
Ça correspond bien au diagramme.
Qui le savait d'un prêtre égyptien.
Et donc, en chemin, ils ont...
Avec IS à la fin.
Justement, la seule partie
que j'aurais
été acquittée, c'est
celle d'expliquer la fin de l'existence. Il y a encore une question au fond?
Oui.
J'entends pas, merci. Oui.
Et elle a dit que les Égyptiens avaient des diverses personnes, et elle pensait des connexions comme les filles.
malgré les limites du monde, assez lourd, mais la mythologie a juste survie.
Alors, le truc avec le Tsirinkos, c'est que c'est un poisson maudit, c'est pour ça qu'on ne peut pas le manger, mais je crois pas qu'ils les considèrent comme leurs ancêtres. Alors le problème avec ce poisson, c'est que, enfin je dis que ça n'existe pas, c'est qu'en fait on ne sait pas à quel poisson ça correspond, et un peu n'importe qui arrive, trouve un poisson dans le Nil qui a le museau vaguement pointu et dit « j'ai trouvé le Tsirinkos !» Mais en fait, on ne sait pas à quoi ça correspond. Oh bah s'ils ont envie de faire du tourisme, c'est leur droit, hein. Je sais pas d'où ça sort, mais c'est probablement Pausanias en fait qui rapporte ce genre de choses. Enfin oui, c'est de toute façon la plupart des mythes égyptiens, on les connaît par les Grecs. Plus de questions ?